When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Menards is your electrical headquarters. We carry all the tools and testers you need for any electrical job. Stack up your toolbox with Southwire electrical products today. Right now, save big money on Southwire electrical tools, testers, cable ties, wire, and cable. Shop our huge selection in-store at Menards. Ranked number one in customer satisfaction among home improvement retailers according to J.D. Power. For more information, visit jdpower.com/awards.
Save big money at Menards.
Premier tableau, chapitre 1er de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir par Georges Courteline. Premier tableau, chapitre 1er. À l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue du Solferino, un régiment de cuirassiers qui regagnait au pas l'école militaire força l'arrière à s'arrêter. Il demeura les pieds au bord du trottoir, ravi, au fond, de ce contretemps imprévu qui allait retarder de quelques minutes encore l'instant désormais imminent de son arrivée au bureau, conciliant ainsi ses goûts de flâne avec le cri indigné de sa conscience. Simplement, car l'énorme horloge du ministère de la guerre sonnait la demi de 2 heures, il pensa « Diable, encore un jour où je n'arriverai pas à midi. » Et les mains dans les poches, achevant sa cigarette, il attendit la fin du défilé. Au-dessus de lui, c'était l'éblouissement d'un après-dîner adorable. Comme il advient tous les ans, Paris, qui s'était endormi au bruit berceur d'une pluie battante, s'était réveillé ce matin-là avec le printemps sur la tête, un printemps gai, charmant, exquis, tout frais débarqué de la nuit sans avoir averti de sa venue, en bon provincial qui arrive du midi, tombe sur les gens à l'improviste et s'amuse de leur surprise. Par-delà les toits des maisons, derrière les hautes cheminées, le ciel d'avril s'étendait d'un bleu profond et sans un nuage, perdu au loin dans une grisaille brumeuse. Une immense nappe de soleil balayait d'un bout à l'autre la chaussée blondie du boulevard, dont les fenêtres, à l'infini, miroitaient comme des lames d'épée, et, sur l'asphalte des trottoirs, les ombres jetées en biais des platanes et des marronniers semblaient des bâtons d'écoliers tracés par une main géante. Lahrier, mis en joie dès le matin aux seules vues d'un reflet cuivré, se jouant par la crétonne fleurie de son rideau, avait déjeuné en 2 temps auprès de sa fenêtre ouverte, puis, tourmenté de l'impérieuse soif de sortir sans par-dessus pour la première fois de l'année, il avait, de son pied léger, gagné la place de l'Opéra, remonté le boulevard jusqu'à la rue de Rouault, le long des arbres déjà encapuchonnés de vert tendre, faisant le gros dos sous le soleil dont la bonne tiédeur lui caressait l'épaule à travers l'étoffe du vêtement. Mais comme il revenait sur ses pas, talonné par l'heure du travail, équitablement partagé entre le sentiment du devoir et son amour du bien-être, brusquement, il s'était rappelé n'avoir pas pris de café à son repas, et devant cette considération, il avait imposé silence à ses scrupules. Le ministère pouvait attendre, aussi bien était-ce l'affaire d'une minute. Et il s'était attablé à la terrasse du Café Riche. Le malheur est qu'une fois là, le chapeau ramené sur les yeux, le guéridon entre les genoux, Lahrier s'était trouvé bien. Il s'était senti envahi d'une grande lâcheté de tout l'être, d'un besoin de se laisser vivre tranquillement, sans une pensée, tombé à une mollesse alanguie et bienheureuse de convalescent. Dans sa tasse, empli à ras-bord, un prisme s'était allumé, tandis que le flacon d'eau-de-vie projetait sur le glacis de la tôle une tache imprécise et dansante, au ton roux de topaze brûlée. Et vite, à sa jouissance intime de lézard haletant au soleil dans l'angle échauffé d'un vieux mur, quelque chose était venu mêler. Une vague velléité de demeurer là jusqu'au soir, à se rafraîchir de bière claire en regardant passer les printanières ombrelles, la vision entr'aperçue d'une journée entière de paresse, inévitablement compliquée d'un lâchage en règle du bureau. Une irritation sourde avait germé en lui sans qu'il s'en fût rendu compte, une rancune contre l'administration, cette gêneuse, empêcheuse de danser en rond, qui se venait placer entre le beau temps et lui, comme pour donner un démenti, malgré la loi et les prophètes, à la clémence infinie du bon Dieu. Et pourquoi faire? Dans la montée houleuse de son indignation, volontiers il eût arrêté les passants pour leur poser la question, en appeler à leur bonne foi de cet excès d'iniquité, leur demander si véritablement c'était une chose raisonnable qu'on le vint dépouiller ainsi de son droit au repos, à la brise d'avril, à la pureté immaculée de l'azur. Longuement, pitoyablement, il avait haussé les épaules. « Si ce n'est pas une calamité !» Son amertume s'était soudainement aigrie. La direction des dons et legs dut passer un joli quart d'heure. « Oui, parlons-en. Quelque chose de beau, la direction des dons et legs. » Une boîte absurde, seulement créée pour les besoins de la cause, à seule fin de donner pâture à la voracité de quelques affamés. Sans but, sans vue, sans une ombre de raison d'être. À ce point qu'entre les ministres, c'est la lutte continuelle qui ne l'aura pas. Tour à tour, c'est la chancellerie qui se récuse et la renvoie à l'instruction publique. L'instruction publique qui se défend et la repousse sur le commerce qui proteste et la refoule sur l'intérieur qui ne veut rien savoir et la rejette sur les finances, et ainsi, jusqu'au jour où une âme charitable veut bien la prendre à sa remorque et se l'adjoindre par pitié. Enfin, une vraie comédie, une allée et venue de volants lancés de raquette en raquette. Avec ça, pas le sou. Des promesses tout le temps, un misérable budget de quelques centaines de mille francs, que la Chambre, par surcroît de bonheur, allège d'année en année. Ah, c'est un rêve. Une fois entré dans cet ordre d'idées, l'employé, comme bien l'on pense, n'avait eu garde de s'attarder aux bagatelles de la porte. En somme, s'il le pouvait attendre, le ministère pouvait également se passer de lui, et à cette conclusion prévue, il avait eu un mince sourire, goûtant l'exquis soulagement qui suit les déterminations longuement discutées, enfin prises. Mais à la réflexion. Et parbleu, non, au fait, je ne pensais pas à cela, moi. Ah, la salle des veines, faut-il que j'aie été bête? La vérité est que la veille, il s'était déjà abstenu, retenu à la dernière minute, comme il allait prendre son chapeau, par la violence d'une averse et la tombée inopinée en son appartement de garçon de Gabrielle, sa maîtresse. Et tout de même, il avait bien fallu qu'il s'inclinât, qu'il fît son deuil de ses projets, pris d'un trac qui, d'avance, lui gâtait son plaisir à l'idée d'une double bordée tirée sans motif plausible. En moyenne, il faisait le mort une fois à la semaine, sans que l'administration, bonne bête, eût l'air de s'en apercevoir. Mais la question était de savoir jusqu'à quel point tiendrait devant l'abus une tolérance faite en partie d'inertie et d'habitude prise. Surtout que, depuis quelque temps, M. La Hourmerie, son chef, changeait d'allure à son égard, affectait, ses lendemains d'absence, une raideur sèche et mécontente, s'enfermait en un de ces mutismes qui désapprouvent, sécrètent perfidement autour d'eux la gêne des situations fausses, point éclaircies. Et c'est pourquoi, convaincu, encore que navré, il s'était pourtant décidé à régler sa consommation et lentement s'était acheminé vers son poste par la place des Pyramides et les Tuileries. Fin du chapitre premier du premier tableau. Premier tableau, chapitre 2 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir, par Georges Courteline. Premier tableau, chapitre 2. À la tristesse morne de la rue Vaneau, la direction générale des dons et legs ajoute la noire tristesse de sa façade sans un relief et de son drapeau dépenaillé, tourné à la loque déteinte. Au-dessus du porche colossal qu'elle chevauche inégalement, voûte profonde où de perpétuels courants d'air galopent à travers la pénombre, elle étage trois rangs de funèbres fenêtres, si étroites et si hautes qu'elles semblent écrasées entre les épaisseurs rembourrées de leurs volets. Plus haut encore, empiétant de leur base vermoulue jusqu'en une gouttière formidable d'où l'été pleut une ombre épaisse, l'hiver, la coulée lente des neiges entassées, six mansardes alignées de front s'enlèvent sur le ciel en créneau. Vue de loin, de la direction des cultes, sa voisine, elle paraît une sombre lézarde aux murs laiteux des hôtels Capricciani et Lamazère Saint-Gratien, qui, de droite et de gauche, la flanquent. De près, elle a la mélancolie pénétrante des choses, la grotesquerie attendrissante d'une pauvre vieille fille sans gorge, au teint de boue haché de gerçure. Et par ses vitres exiguës, closes sur le noir éternellement, elle répand une désolation de maison abandonnée, ou que viendrait visiter une brusque attaque de choléra. Il semble qu'à travers ses épaisses murailles passe, transpire, s'évapore pour en infester le quartier, la solitude glaciale de ces interminables corridors, aux dalles sonores que lèche du matin au soir la lueur agonisante d'un gaz mi-baissé. Sans qu'on sache au juste pourquoi, on devine le vide immense de cette caserne, la non-vie des 30 ronds de cuir noyés dans son vaste giron. On pressent le silence sinistre de ces bureaux inoccupés et de ces archives lambrissées. Catacombes administratives qu'emplit tantôt un froid de glace, tantôt une chaleur d'étuve, et où dorment pêle-mêle, sous un même linceul de poussière, des ballots de dossiers entassés, des chaises éventrées, des cartons en lambeaux, jusqu'à des chenets et à des chaussures moisies. Toute une saleté de matériel hors d'usage, amenée là à coups de balai des quatre coins de la maison et achevant d'y pourrir en paix dans une promiscuité dernière. Mixte, bâtarde, équivoque, d'une austérité de monastère que mitigerait la banalité d'un magasin à fourrage, elle est juste, au ministère, ce que l'institution Pédeloup est au lycée. Elle sue son inutilité, elle la crie aux passants convaincus. Elle est comme ces gredins malchanceux qui portent leur scélératesse sur leur visage et dont le regard louche édifie. Seul, le portier égaye la situation de sa tête de chimpanzé officiel qu'écrase l'ampleur phénoménale d'une casquette officielle aussi. Justement, il fumait sa pipe sur le trottoir quand l'arrié déboucha de la rue Bellechasse. Il lui tourna le dos aussitôt, regarda dans la direction opposée, histoire de ne pas le saluer au passage. Il geignait.
3h20, c'est à tuer un être pareil.
Il le tenait en mépris hautain, écœuré dans sa droiture de fonctionnaire consciencieux qu'honore la fidélité au devoir, le zèle à tirer le cordon et l'attachement bien connu aux institutions qui nous régissent. Lorieux passa outre, franchit le porche, s'engagea dans le tire-bouchonnement d'un escalier de service spécialement affecté à l'usage du personnel. Il atteignait le troisième palier lorsque Ovid, son garçon du bureau, sortit du chenil ténébreux qui l'abritait. Un trou infect, sans air, creusé à même la muraille, et où des cuivreries de lampes astiquées allumaient tout au fond une série d'étoiles.
« Chez le chef !»
dit ce serviteur laconique. Lahrier, étonné, s'arrêta. « Quoi ?» Ovid daigna s'expliquer.
« Il y a le chef qui a dit comme ça que vous alliez lui parler, sitôt que vous seriez ici. »
Le jeune homme flaira une tuile.
De son mieux, il réprima un geste de contrariété. « Ah, bon, parfaitement. Merci. » Et, enlevant son chapeau, « Bien aimable, Ovide, si ça ne vous fait rien de me garder ça une minute. »
Déjà, il était loin. Il frappait discrètement à la porte de son chef. Une voix lui cria
« Entrez !»
Il obéit. Plus vaste qu'une halle et plus haut qu'une nef, le cabinet de M. de la Hourmerie recevait, par trois croisées, le jour, douteux pourtant, de la cour intérieure qu'emprisonnaient les quatre ailes de la direction. Derrière un revêtement de carton vert, au coin usé, au ventre solennel et rond des notaires aisés de province, les murs disparaissaient des plaintes aux corniches, et l'onctueux tapis qui couvrait le parquet d'un lit de mousse ratondu, le bûcher qui flambait clair et la cheminée, l'ample chancelière où plongeaient à côté les pieds de M. de la Hourmerie, trahissaient les goûts de bien-être, toute la douilletterie frileuse du personnage. Lahrier s'était avancé. « Je vous demande pardon, monsieur, » dit-il avec une déférence souriante. « Il y a 2 heures que je suis ici, et cet imbécile de vide songe seulement à m'avertir que vous m'avez fait demander. » Couché en avant sur sa table, consultant une demande d'avis qui l'écrasait de sa myopie, M. de la Hourmerie prit son temps. À la fin, mais sans que pour cela il s'interrompît dans sa tâche, « Vous n'êtes pas venu hier, » dit-il négligemment. « Non, monsieur, » répondit Lahrier. « Et pourquoi n'êtes-vous pas venu ?» L'autre n'hésita pas. « J'ai perdu mon beau-frère. » Le chef, du coup, leva le nez. « Encore ?» Et l'employé, la main sur le sein gauche, protestant bruyamment de sa sincérité. « Non, pardon, voulez-vous me permettre ?» s'exclama M. de la Hourmerie. Rageur, il avait déposé près de lui la plume d'oie qui, tout à l'heure, lui barrait les dents comme un mort. Il y eut un moment de silence, la brusque accalmie, grosse d'angoisse, préludant à l'exercice périlleux d'un gymnaste. Tout à coup.
« Alors, monsieur, c'est une affaire entendue ? Un parti pris de ne plus mettre les pieds ici ?»«
À 7 heures. Vous avez perdu votre beau-frère. Comme déjà, il y a 8 jours, vous aviez perdu votre tante. Comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier. » Votre père à la Trinité, votre mère à Pâques. Sans préjudice, naturellement, de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison d'un au moins la semaine. Quel massacre ! Non mais, quel massacre ! A-t-on idée d'une famille pareille ? Je ne parle ici, notez bien, ni de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les 3 mois. « Eh bien, monsieur, en voilà assez. Que vous moquiez du monde, soit. Mais il y a des limites à tout. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs pour que vous passiez votre vie à enterrer les uns, à marier les autres ou à tenir sur les fronts baptismaux, vous méprenez, j'ose le dire. » Il s'échauffait. Sur un mouvement de Lahrier, il ébranla la tête d'un furieux coup de poing. « Sacredier, monsieur, oui ou non, voulez-vous me permettre de placer un mot ?» Là-dessus, il repartit, il mit son cœur à nu, ouvrit l'écluse au flot amer de ses rancunes. Il flétrit l'improbité. « L'improbité, parfaitement, je maintiens le mot !» Des employés amateurs sacrifiant à leur coupable fainéantise la dignité de leur fonction, jusqu'à laisser choir dans la déconsidération publique et dans le mépris sarcastique de la foule l'antique prestige des administrations de l'État. Il s'attendrit à exalter la direction des dons et legs, la grande bonté du directeur, les traditions quasi familiales de la maison. Une phrase en amenait une autre. Il en vint à envisager le fonctionnement de son propre bureau. « Vous êtes ici 3 employés attachés à l'expédition. Vous, Monsieur Soupe et Monsieur Letondu. Monsieur Soupe en est aujourd'hui à sa 37e année de service et il n'y a plus à attendre de lui que les preuves de sa vaine bonne volonté. Quant à M. Letondu, c'est bien simple, il donne depuis quelques semaines des signes indéniables d'aliénation mentale. Alors quoi ? Car voilà pourtant où nous en sommes. Et il est inouï de penser que sur 3 expéditionnaires, l'un soit fou, le 2e gâteux et le 3e à l'enterrement. Ça a l'air d'une plaisanterie. Nous nageons en pleine opérette. Et naïvement, vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer de ce train. » Le doigt secoué dans l'air, il conclut. Non, monsieur, j'en suis là, moi, des enterrements et des catastrophes soudaines, et des ruptures d'anévrisme, et des gouttes qui remontent au cœur, et de toute cette turlupinade de laquelle on ne saurait dire si elle est plus grotesque que lugubre ou plus lugubre que grotesque.
C'en est assez, c'est assez, vous dis-je, je vous dis que c'en est assez sur ce sujet. Passons à d'autres exercices.
Désormais, c'est deux choses l'une, la présence ou la démission. Choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte. Je l'accepte au nom du ministre et à mes risques et périls, est-ce clair? Si c'est le contraire, vous voudrez bien me faire le plaisir d'être ici chaque jour sur le coup d'11 heures, à l'exemple de vos camarades, et ce, à compter de demain, est-ce clair? J'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse qui vous poursuit, semble se faire un jeu de vous persécuter, viendra vous frapper de nouveau dans vos affections de famille, je vous ferai flanqué à la porte. Est-ce clair? D'un ton dégagé ou percé d'une légère pointe de persiflage? Parfaitement clair, dit Lahrier. À merveille, fait le chef, voilà prévenu. Et vous savez, n'ayez pas l'air de vouloir faire le malin, ou ça va... Il s'interrompit, averti par un discret d'une présence insoupçonnée. Lahrier du même coup avait tourné la tête et tous deux, ils fouillaient le lointain de la pièce où se dandinait, saluant les murs de droite et de gauche, un petit vieux monsieur au crâne nu, au visage mangé de barbe grise. Peut-être avait-il toqué sans que la timidité de son appel, noyée dans le bruit de la discussion, fût parvenue aux oreilles intéressées. Le fait est qu'il se trouvait là, rivé au sol, avec la contenance gênée de l'homme tombé mal à propos dans une discussion de ménage. Assez sèchement vexé à la vérité d'avoir été surpris dans son linge sale. « Qui êtes-vous, monsieur, et qu'est-ce que vous voulez ?» demanda de sa place monsieur de la Hourmerie. Le petit vieux monsieur répondit. « Je vous prie de m'excuser, monsieur. Le chef du bureau des legs, s'il vous plaît. C'est moi-même. » Cette révélation détermina chez le visiteur une brusque projection en avant de toute la partie supérieure de son être. Presque il baisa la terre dans son empressement de courtoisie. Et un instant, par le bâillement postérieur de son faux col, on distingua sa nuque en forme de gouttière, la naissance de son échine baignée de mystérieuses pénombres. Immédiatement, il s'était mis en branle. Il semblait qu'il marchât sur une couche de beurre, tant ses pieds sonnaient peu au moelleux du tapis. Il se nomma. « Je suis le conservateur du musée de Vanne-en-Bresse. Le... » Quelque volonté qu'il eut de se contenir, monsieur de la Hourmerie changea de couleur. Et tandis que lui venait aux lèvres le mot « Prenez donc une chaise », la pensée lui venait à l'esprit. Sacredier, le leg qui bolle, et cette brute de Van der Hogen qui en a égaré le dossier.
Fin du chapitre 2 du premier tableau. Premier tableau, chapitre 3, de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir, par Georges Courteline, premier tableau, chapitre 3. Car en ces temps proches des nôtres, florissait à la direction des dons et legs le sous-chef Van der Hogen, personnage épique s'il en fut, et dont nous ne saurions, sans risquer de manquer gravement à nos devoirs, ne point crayonner en ses pages la pittoresque silhouette. Bourré de grec, bourré de latin, bourré d'anglais et d'allemand, ex-élève sorti de l'école des langues orientales et absolument incapable avec ça de mettre sur leurs pieds 20 lignes de français, Théodore Van der Hogen évoquait l'idée d'une insatiable éponge de laquelle rien n'eût rejailli. Tour à tour, il avait parcouru comme sous-chef chacun des 8 bureaux de la direction, sans que jamais on eût pu obtenir de lui autre chose qu'une activité désordonnée et folle, un sens du non-sens et de la mise au pillage qui lui faisait retourner comme un gant et rendre inextricable du jour au lendemain un fonctionnement consacré par de longues années de routine. Il s'abattait sur un bureau à la façon d'une nuée de sauterelles, et tout de suite, c'était la fin, le carnage, la dévastation. La coulée limpide du ruisselet que la chute d'un pavé brutal a converti en un lit de boue. Le seul fait de sa présence affranchissait tout un petit monde d'employés, superflus de cet instant même, et n'ayant plus qu'à se croiser les bras devant l'effondrement sinistre de ce qu'avait été leur service. À la fin, M. de la Hourmerie, cédant aux supplications de ses collègues, avait consenti à se l'adjoindre, et, comme on abandonne un objet inutile aux pattes meurtrières d'un gamin, il lui avait abandonné la gestion des affaires classées. Là, au sein même du dieu papier, que Van der Hogen était bien. Libre de nager, de patauger, de s'ébattre, en une pleine mer de documents officiels, de débats jurisprudentiels, de rapports administratifs accumulés les uns sur les autres depuis les premiers âges de la direction, il passait d'exquises journées à galoper de son cabinet aux archives, où il s'éternisait inexplicablement, et d'où il revenait, blanc de poussière, pressant sur son plastron de ses mains de charbonnier des dossiers que visiblement il avait dû aller chercher à plat ventre sous les arêtes aiguës des toits, embroussaillés de toiles d'araignée. Il avait apporté une échelle double, du haut de laquelle, souriant et âpre, il fouillait les recoins de sa pièce, sondant de coups de poing le plafond et les murs, avec l'espérance que, peut-être, d'autres documents en jailliraient encore. Sur sa tête, à demi vénérable déjà, d'antiques cartons, arrachés violemment à l'étreinte de leurs alvéoles, s'ouvraient, lâchant des avalanches de paperasses qui se répandaient par le vide, pareilles à des vols d'albatros, pour se venir écrouler en monceaux sur le sol. Mais il ne s'en effarait pas, ravi plutôt, chez soi au cœur de ce pillage, et gardant du haut de son perchoir une face silencieusement rayonnante. Et quand enfin, autour de lui, c'était le triomphe du chaos, l'orgie auguste du pêle-mêle, l'enchevêtrement définitif et à tout jamais incurable, Van der Hogen prenait sa plume et documentait à son tour, lancé maintenant dans des flots d'encre. Entre deux murailles de dossiers équilibrés à chaque extrémité de sa table, et que le passage de voiture agitait de grelottements inquiétants, il couvrait de sa large écriture d'innombrables feuilles de papier qu'il envoyait par charté au visa directorial et qu'on retrouvait au lieu le lendemain matin. Tartines extraordinaires où se voyaient favorablement accueillies les revendications d'obscurs collatéraux enterrés depuis des années, où des notaires envoyés à Toulon en 1818 pour faux en écriture authentique étaient signalés au parquet comme coupables d'infraction à des circulaires abrogées. Il brochait ses âneries d'une main convaincue, s'interrompant de temps en temps pour brandir à travers l'espace des bâtons enflammés de cire rouge, abattre au hasard du papier des coups de timbre secs formidables qui sonnaient comme, au creux d'une caisse, les coups de marteau d'un emballeur. Il regrimpait à son échelle, en redescendait aussitôt, s'en retournait ensuite aux archives pour, de là, rappliquer chez le bibliothécaire une vieille bête que tuait de chagrin à petit feu ses façons de charcuter le dalloz, le recueil des avis du Conseil d'État et la collection de l'officiel. Il bouleversait la direction de son importance imbécile. Son inlassable activité était celle d'un gros hanneton tombé au fond d'une cuvette. Mystérieux, solennel, profond, il détenait des secrets d'État, et il n'avait pas son semblable pour demander aux gens « Comment vous portez-vous » de la même voix dont il leur eût jeté à l'oreille « Vous ne voudriez pas acheter un joli jeu de cartes transparentes ?» Son fort, pourtant, Sa véritable spécialité, c'était s'immiscer sournoisement dans les choses qui ne le regardaient pas. La confiscation à son profit du travail de ses collègues. Ceux-ci, pour montrer ses talents, son chic unique à faire jaillir la lumière en démêlant en un clin d'œil des écheveaux d'affaires compliquées sur lesquels employés et chefs avaient sué sang et eau des mois. Et le fait est qu'il excellait, comparablement à Pinzin, dans le bel art des solutions promptes, ainsi qu'il en appert clairement au surplus des faits que nous allons compter. En janvier 1881, un sieur Kibble, Grégoire Victor, décédait à Vanne-en-Bresse, léguant au musée de cette ville une paire de jumelles marines et deux chandeliers Louis XIII. Deux ans plus tard, l'affaire n'avait pas fait un pas. Ballottée de cartons en cartons, elle flottait par les bureaux des dons et legs, tiraillée comme à deux chevaux entre les deux avis radicalement contraires de l'autorité ministérielle et de l'autorité préfectorale, concluant l'une au rejet du legs, l'autre à son acceptation. Le pis était que deux députés ennemis avaient pris la chose à leur compte et tiré dessus, chacun dans un sens, avec menace de créer des complications au cabinet si le litige n'était tranché inversement à l'avis de l'autre. Le tout, au grand chagrin du conservateur légataire, inondant la direction de rappels désespérés et hurlant après son bien comme un chien de garde après la lune. Saisi de la question, le Conseil d'État hésitait, discuter le point de savoir lequel, au juste, d'un legs proprement dit ou d'une charge d'hérédité non sujette à l'approbation du gouvernement, constituait la libéralité Kibble, et le débat en était là quand Van der Hogen intervint. Une fois qu'il passait devant la porte ouverte du rédacteur Chavarax, il aperçut le bureau vide et, sur la table, un dossier gigantesque de la hauteur d'une cage à serins.
Le legs Kibble. Sauter dessus, s'en emparer comme d'une proie et l'emporter en son repaire, fut pour lui l'affaire d'un instant. Accompli à l'insu de tous, l'opération réussit à merveille et une heure après, pas deux, une, la question était tranchée. Entre les mains secouées de zèle du terrible Van der Hogen, une à une, les pièces du dossier s'en étaient allées, Dieu sait où, voir si le printemps s'avançait. Celle-ci, lâchée sur la province afin de complément d'instruction, celle-là, emmêlée par erreur à des pièces d'autres dossiers. D'où un micmac de paperasse à défier un cochon d'y retrouver ses petits. Et l'immobilisation définitive d'une affaire devenue insoluble. Monsieur de la Hourmerie, pris au dépourvu, n'en fut pas moins très remarquable, d'une audace tranquille qui stupéfia Lahrier. Monsieur, dit-il, l'affaire a été soumise il y a 8 jours à l'examen du Conseil d'État, mais peu importe. Veuillez vous asseoir, je vous prie, vous veniez pour vos chandeliers.
Oui, monsieur, dit le conservateur, et pour ma jumelle marine.
C'était vrai. À bout de patience, écœuré de vaines attentes, il s'était enfin décidé à faire son petit coup d'État, en venant à Paris, lui-même, disputer aux lenteurs administratives son humble part du legs Kibble. Et il conta que, depuis 20 minutes, il errait, triste chien perdu, par les tortueux dédales de la direction. Bien sûr, il ne se plaignait pas. Mais à ses étranges sourires, à ses mots qu'il ne trouvait pas, à ses phrases pudibondement interminées, on reconstituait les dessous de sa lamentable odyssée. On pressentait sur quels extraordinaires locaux il avait dû pousser des portes. Combien de corridors enchevêtrés avaient vu et revu sa mélancolique silhouette, aux épaules voûtées un peu déjà par l'âge. Il se justifia d'ailleurs.
« Je vous demande 1000 pardons, monsieur, de venir ainsi vous troubler au milieu de vos occupations, mais ma situation toute spéciale me ferait excuser, je l'espère. Il faut vous dire qu'en me nommant à Vanne-en-Bresse, monsieur le ministre des Beaux-Arts ne m'a pas... exceptionnellement favorisé. Mon Dieu, non. À beaucoup près, même. Le musée de Vanne-en-Bresse, en effet, n'est pas des plus intéressants.
Certes,
Dire qu'il n'y a rien à y voir serait de l'exagération. En somme, il possède plusieurs tableaux de maître, des copies naturellement, une belle collection d'insectes, et des bocaux de produits chimiques, ce qui est déjà quelque chose. Vous comprenez pourtant à quel point cette jumelle et cette paire de chandeliers, objet d'un haut intérêt, sont pour moi une bonne fortune. » Lahrier s'amusait follement. Il eût payé 20 francs de sa poche pour assister à la fin de l'entrevue, tant l'égayait et l'attendrissait à la fois la pauvre figure du conservateur. Roublard, ayant vu du coin de l'œil son congé qui se formulait sur la bouche à demi ouverte de son chef, il prit carrément la parole. « L'affaire, dit-il, est si bien au Conseil d'État que c'est moi qui l'y ai envoyé. » Sur la question faite d'une voix tremblante, « Puis-je du moins espérer une solution prompte ?»« Incessante, déclara-t-il, j'oserais presque dire immédiate. » Qu'il fut payé de son aplomb. Au mot « immédiate », l'œil du conservateur s'était enflammé comme une torche. Un indéfinissable sourire de cupidité satisfaite avait illuminé sa face. Il bégaya. Fort bien, ah fort bien, parfaitement. Mon Dieu, que je suis aise de ce que vous me dites là. Les mots ne se présentaient plus. Il était trop heureux, cet homme. Déjà, il tenait son bien, il l'emportait ainsi qu'une proie, et un rêve lui montrait sa vieillesse chargée de gloire. Des quatre extrémités du monde, il voyait des populations affluer à son petit musée, se masser, muettes d'admiration, devant la jumelle marine et les deux chandeliers Louis XIII. En effet, fit alors M. de la Hourmerie, que le joli toupet de l'expéditionnaire avait démonté un moment, la section ne saurait tarder à se prononcer, et je n'attends que le retour du dossier pour soumettre à la signature du président de la République le décret d'autorisation. Si monsieur, et il souligna, qui est si exactement renseigné, veut bien faire dès à présent le nécessaire, nul doute que je sois en état de vous satisfaire rapidement. Lahrier se dit, cette fois, ça y est. Il chercha un mot heureux, un de ces mots qui couvrent la honte des défaites. Ne trouvant rien, il salua et sortit, accompagné jusqu'à la porte de la voix doucement éplorée du citadin de Vanne-en-Bresse, insinuant « J'aurai donc l'honneur de vous revoir, monsieur le chef de bureau. Je suis à Paris pour quelques jours et, si, naturellement, je pouvais repartir avec mes ampliations. » Fin du chapitre 3 du premier tableau. Deuxième tableau, chapitre 1 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir par Georges Courteline. Deuxième tableau, chapitre 1. « Et voici notre jeune collègue, » dit aimablement le père Soupe, que la brusque entrée de Lahrier venait d'éveiller en sursaut. « Bonjour, bonjour, » fit Lahrier. Du premier coup d'œil, il avait aperçu, bien mis en vue sur l'amoncellement des affaires à traiter qui noyait sa table de travail, un pli cacheté, couleur vert d'eau. Et il se hâtait, intrigué, goûtant à recevoir des lettres, une anxiété délicieuse. D'un coup de doigt, sans prendre le temps de s'asseoir, il fit éclater l'enveloppe. Il lut. « Mon René chéri, ne va pas demain au ministère. Je me suis faite libre et je t'irai voir. Reste au dodo à m'attendre. Je serai chez toi sur les 1 heure. Je t'embrasse les yeux, la bouche, la moustache et le bout du nez. Ta, tata. » Tata, c'était Gabriel. Par quelles interventions de prodigieux avatars, de lentes transformations, de nuances insensibles, Gabriel, peu à peu, était devenu Tata, mystère, et éternel assoiffement de câlinerie des amoureux demeurés très enfants. Lahrier eut un geste désolé. « La la, la la, la 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 !» Tout de suite, le père Soupe intervint, sa curiosité naturelle éveillée.
Légèrement, au-dessus de la galette de cuir qui le couronnait à rebours, il souleva son fond de culotte. « Une contrariété ?» demanda-t-il. Le père Soupe était un vieux à lunettes, de qui l'édentement, peu à peu, avait avalé les minces lèvres. Sur sa face luisante comme vernis, ses sourcils broussailleux débordaient en auvent, et des milliers de filets sanguins se jouaient sur la fraîcheur caduque de ses joues, y serpentaient à fleur de peau, avec le grouillement confus d'une potée de verre de vase. Stupide, de cette stupidité hurlante qui exaspère à l'égal d'une insulte, il passait les trois quarts du temps à faire la sieste en son fauteuil, le reste à ricaner tout seul, sans que l'on pût savoir pourquoi, à se frotter les mains, à pouffer bruyamment, la tête secouée des hochements approbatifs d'un petit gâteux content de vivre. Et quand Lahrier, crispé, l'interrogeait sur le mystère de cette gaieté intempestive, il ébauchait un geste vague, le geste de l'homme qui se comprend. Un lent aller et retour de ses doigts de squelette séchés, ses yeux baignés de larmes, en sorte que c'était vraiment à prendre une trique et à taper dessus jusqu'à ce qu'il s'expliquât. Lequel des deux, de l'employé ou du bureau, était le fruit naturel de l'autre, sa sécrétion obligée. C'est ce que l'on eût su préciser. Le fait est qu'ils se complétaient mutuellement, qu'ils se faisaient valoir par réciprocité, étant au même titre sordides et misérables. Les taches huileuses qu'ils se repassaient depuis des années semblaient les caractéristiques de leur étroite parenté, et si l'un fleurait l'âcreté des paperasses empoussiérées, l'autre exhalait l'odeur atroce des vieux chastes, doucereuses, écœurantes, qui est comme le relent de leur virginité rancie. Certes, René Lahrier n'aimait guère le bureau, mais plus encore, il exécrait le père Soupe, tenant sa société pour aggravation de peine. Il était de ces êtres tout nerfs, chez qui l'agacement a vite dégénéré en animosité haineuse. Soupe n'avait pas ouvert la bouche que déjà il l'assourdissait de ses rappels au silence, les poings clos, malade d'exaspération devant même que les chandelles fussent allumées. La passivité épeurée du bonhomme l'excitant, il en était venu à ne plus voir en lui qu'une loque bureaucratique au long de laquelle volontiers il eût essuyé ses semelles. Il s'en était fait un joujou. Il se divertissait à l'ahurir d'injures, de scies empruntées au répertoire varié des rapins de la place Pigalle. Il scandalisait ses pudeurs, bouleversait de théories extravagantes sa foi aveugle de vieil ingénu, tant que le pauvre homme, parfois, aimait mieux lui céder la place, déserter son cher bureau, et jusqu'au soir s'en aller traîner par les rues, désorienté, hébété, amputé de ses habitudes. Aussi bien, ces petites scènes de famille ne tiraient-elles point à conséquence. Soupe avait courte la rancune s'il avait l'irritation lente, et le soleil du lendemain le retrouvait fidèle au poste, rasséréné, rasé de frais, satisfait de lui et des autres. Entre les trous de sa cervelle, les mauvais souvenirs passaient sans laisser trace, comme passe de l'eau à travers un tamis. Lahrier, cependant, était demeuré debout, les mains aux hanches, questionnant une fente du plancher. Soudain, il leva la tête. Soupe, en effet, entêté à obtenir une réponse, insistait, le lardait tout vif d'une obsession de litanie. « Une contrariété ? Hein ? Hein ? Dites ! Hein ? Une contrariété ? Hein ? Dites ! Hein ? Dites ! Hein ? Dites ! Hein ? Hein ? » Très calme, il demanda.
« Ah, ça, vous n'avez pas bientôt fini de faire le phoque ? En voilà un vieux lavement.
Comment ? Comment ? Dit le père Soupe. Il continua.
Évidemment, vous m'embêtez avec vos hein.
Et puis d'abord, ce n'est pas votre affaire s'il m'arrive une contrariété.
Est-ce que je vous demande la couleur de vos bas, moi ?
Non, n'est-ce pas ?
Alors, de quoi vous mêlez-vous ? Vous êtes un goujat, mon cher.
Un goujat ? Au mot de goujat, les mâchoires entrouvertes du vieux se resserrèrent, puis se rentrouvrirent, puis se resserrèrent encore une fois, secoué des tressautements d'agonie d'un râtelier qui se démantibule. Ses mains, un instant soulevées, en appelèrent au maître de tout. il suffoquait.
S'il est permis, parler ainsi à un homme de mon âge.
Homme de votre âge, fermez ça, cria l'autre. Fermez ça ou, parole d'honneur, je jette quelque chose dedans. Un encrier, une savate, la première chose venue qui me tombe sous la main. Vous m'agacez, homme de votre âge. Vous avez le don de me porter sur les nerfs à un point que je ne saurais dire. Donc, fichez-moi la paix et que ça ne traîne pas. Je ne suis pas à la rigolade aujourd'hui, je vous en préviens.
Sec et digne.
Ça se voit, dit Soupe.
Mais Lahrier.
Assez, assez donc. La levée est faite, je vous dis.
Et il changea de ton pour crier.
C'est bon, oui.
Au conciliant le tondu, lequel jetait l'apaisement à coups de pied dans la cloison.
Soupe, Maté, ne répliqua plus.
Il dut se borner à épancher son fiel en un soliloque navré et imprécis.
Lahrier, lui, s'était assis. Du stock des affaires en retard, il avait dégagé, pour l'amener à soi, le dossier du legs brut sapin, et il commença de l'expédier.
Monsieur le Président du Conseil d'État, j'ai l'honneur de signaler à la section de l'instruction publique et des beaux-arts l'intérêt tout particulier qui s'attacherait à ce qu'il soit statué dans le plus bref délai sur le legs fait par la dame veuve Brut-Sapin à la fabrique de l'église succursale d'Oiselle, consistant en une mort de Saint-Médard attribuée à Tiepolo et estimée 40 francs. Il avait une calligraphie à lui. Une bâtarde fantaisiste, pétaradante d'enjolivements et d'arabesques, à la fois superbe et illisible. Et tandis que les pages noircissaient à vue d'œil sous le galop précipité de sa main, sa pensée aussi galopée le ramenait à Gabriel qui, décidément, commençait à tenir dans sa vie une place un peu plus grande, peut-être, qu'il n'eût été à souhaiter. Il la revoyait telle qu'elle était, toute mignonne et casquée de clair, point joli, certes, mais à coup sûr bien plus que cela, avec son nez troussé d'une chiquenaude et son éternel sourire de petite parisienne bavarde et mauvaise langue. L'épaisse ligne de ses sourcils lui coupait en deux le visage d'une barre touffue et jalouse. Sous son menton, une ombre de potelet se formait, qui se noyait en l'ombre du col, s'allait perdre au diable Vauvert en d'autres ombres plus épaisses.
Brusquement, un coup de fouet le cingla. Le sang lui monta au visage, car voici qu'il l'avait vue nue, que de ses mains, une fois encore, il l'avait tenue au bord du lit, ramenée un mois en arrière au soir inoubliable de la première possession. Sous le flot des jupes troussées dont il lui cachait la figure comme par jeu, il avait entendu ses cris effarouchés mêlés de rires étouffés et de défis. Il avait eu l'afflante vision des dessous tout à coup aperçus, des lingeries où courent des rubans bleu pâle, et des petits pieds qui battent l'air, et des petites mules qui les coiffent, et des longs, des très longs bas noirs qui grimpent à l'assaut des jambes fines, escaladent les genoux, se faufilent sournois par l'étranglement des tuyautés.
C'était ainsi qu'il l'avait conquise, en effet, après une courte comédie de défense à laquelle rien n'avait manqué, ni, avant, les rodomontades d'une rouée qui joue la gamine et feint de ne pas prendre les choses au sérieux, ni, pendant, les supplications, les appels au mari absent, les bras qui repoussent sans force, ni, après, les faux désespoirs, les grands mots, la scène des larmes qui ne veulent pas venir et de l'œil consterné qui contemple l'abîme, avec une dernière langueur de jouissance sous les cils.
« Crénom !» fit-il à mi-voix.
Il déposa sa plume, roula une cigarette, tâchant à se changer le cours des idées.
À ce moment,
« 3 heures !» annonça le père Soupe, qui avait les belles digestions des gens de conscience immaculée. « Je vais aller faire mes petits besoins. » Fin du chapitre 1 du deuxième tableau.
Deuxième tableau, chapitre 2 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir, par Georges Courteline, deuxième tableau, chapitre 2. Abasourdi un instant, Lahrier leva le nez et dit « Voilà une heureuse nouvelle, d'un prodigieux intérêt, oui, palpitant en vérité. Vous devriez le téléphoner à toutes les cours étrangères. » Et « Enfin, soupe, décidément, vous êtes donc plus bête à vous seul que tous les cochons de Cincinnati. À cette heure, vous ne pouvez plus aller au lieu sans vous croire dans l'obligation de faire une préface. Bien sûr, une préface. Qu'est-ce que ça peut me faire que vous alliez au lieu? D'abord, vous saurez une chose, quand on a reçu de l'éducation, on y va sans rien dire au lieu. Ou alors, on est un sale mufle. »
Et si je veux y aller, moi, au lieu?
Riposta, après un instant de silence, soupe dressée sur ses ergots.
Vous n'avez pas la prétention de m'empêcher de faire mes petits besoins et d'aller au lieu quand cela me plaît.
Lahrier, que l'agacement gagnait, reprit. « Je ne vous parle pas de ça. »«
Vous ne me parlez pas de ça ?»«
Non, je ne parle pas de ça. J'en serais ma foi bien fâché de vous empêcher d'aller au lieu. Et si, même, je souhaite quelque chose, c'est que vous y élisiez domicile une fois pour toutes, que vous y passiez votre vie, que vous ne les quittiez jamais. J'aurais au moins le soulagement de ne plus voir votre sale tête. Je vous dis simplement ceci. » Que vous ne seriez point compromis pour aller au lieu comme tout le monde, discrètement, en homme bien élevé, sans proclamer « Je vais aller faire mes petits besoins » avec des airs de jeune espiègle. Il disait des choses sensées, mais la stupidité du père Soupe atteignait en folle surdité, en extravagante obstination, aux limites les plus reculées du chimérique et de l'irréel.
« A-t-on jamais vu ?»
clama indignée cette vieille bête.
Un moutard? On lui presserait le nez, il en sortirait du lait. Qui voudrait m'empêcher d'aller au cabinet et de faire mes nécessités?
Lahrier, que venait de mettre sur pied le contre-choc d'un double coup de poing violemment abattu parmi les paperasses de sa table, cria.
Je ne vous parle pas de cela, encore une fois. Je vous dis et je vous répète que vous pouvez très bien aller au cabinet sans donner à cet événement l'importance d'un crime d'État.
Mais j'ai 64 ans, déclara le père Soupe qui n'avait pas compris un mot. Personne ne m'a jamais commandé et il faudrait, jour de Dieu, qu'arrivé à 64 ans, je rencontre un galopin pour se permettre de me donner des ordres. Soupe. Et pour jeter les hauts cris quand je veux aller aux commodités satisfaire mes petits besoins.
C'en était trop. Les ongles entraient dans la table, telles des lames aiguës de canif.
Soupe, taisez-vous, hurla Lahrier. Taisez-vous, soupe, et cavalez. Disparaissez à l'instant même où je vous transforme en quelque chose. En quoi, je n'en sais rien, mais je vous change. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Vous m'êtes odieux, entendez-vous? Votre vue m'est abominable, et le seul son de votre voix suffirait à me faire tomber dans les attaques d'épilepsie. Oui, très sérieusement, je vous le dis, ça a cessé d'être possible, et je sens la minute prochaine où un miracle sera à la portée de ma main. Allez-vous-en, soupe, fichez le camp. La sagesse même et la prudence vous le conseillent ici, par ma bouche. Du coup, le père Soupe et le traque, les mains au ciel. Oh, quel homme! Fit-il.
Ce fut tout. Il gagna la porte et disparut. Et Lahrier, une minute plus tard, séchait encore sur ses tempes l'exaspération qui perlait en sueur quand il s'épanouit brusquement. Ses 25 ans, à vrai dire, avaient épargné sa gaminerie naturelle. Il avait gardé du bébé le bon rire, la mobilité d'esprit hannetonnière, l'oubli facile des petits embêtements de la vie. Depuis longtemps, il mijotait en soi, à l'intention du père Soupe, le plan d'une blague gigantesque, et devant l'occasion qui se présentait de la placer, tout s'effaça. Il n'y eut plus rien que l'agréable perspective de faire mousser le vieil expéditionnaire et de déchaîner ses fureurs indignées. Le temps pressait. Il se hâta. Le visage barbouillé d'une couche de craie, le nez entièrement habillé d'une carapace de pain à cacheter écarlate, ses cheveux, qu'il portait longs,
ramené par là-dessus à coups de brosse et tombant en mèches éplorées sur des yeux qui se mouvaient, blancs entre les retroussis affreux de deux sanguinolentes paupières, il vint s'accroupir près de la porte, de façon que Soupe, à son retour, resta cloué d'épouvante sur le seuil au vu de cette face de vampire. Celui-ci, déjà rappliqué, on entendait le grossissement de son pas lentement traînaillé par les dalles du couloir. Lahrier, jouissant, attendait.
La porte enfin s'entrebâilla. Une tête passa, un masque embroussaillé de barbe.
« Je vous demande pardon, monsieur, pour s'en aller. »
C'était le conservateur du musée de Vanne-en-Bresse, ce pauvre homme qui ne trouvait plus la sortie, l'allait quêtant de porte en porte. Successivement, il avait pénétré chez le commis d'ordre Guitard, au même moment où cet ingénieux employé rafistolait son soulier avec un morceau de ficelle, puis chez Van der Hogen, dont il n'avait vu que des jambes perchées au faîte d'une échelle, toute la partie supérieure du sous-chef disparue au fond d'un placard, puis chez le tondu, qu'il avait surpris presque à poil en train de faire des tours de force avec le panier à bois. Si bien que maintenant, habitué déjà, il contemplait sans trop de stupeur ce nouvel et extraordinaire aperçu d'un titulaire officiel dans l'exercice de ses fonctions. Il fut charmant, au demeurant, confus d'être si mal tombé.
« Oh, combien je regrette, vraiment, je ne sais comment me faire excuser. Je trouvais là une plaisanterie qui promettait d'être excellente. »
Au fond, il cachait sa surprise, s'étant fait, en son trou de province, une idée autre des grandes administrations. Ce fut, entre Lahrier et lui, un vrai tournoi de courtoisie. Également empressé à repousser les protestations l'un de l'autre, il se défendait avec une même chaleur, avec ce même geste de la main qui refuse et se déclare indigne.
« Je vous prie de croire, monsieur, que si j'eusse pu supposer... »« Du tout, monsieur, c'est moi qui vous demande pardon. »
« Ah, permettez, les regrets sont pour moi, monsieur. La faute en est à ces diables de corridors. On se perd, on se perd. »
La rentrée en scène du père Soupe mit fin à cette lutte exquise. Et à lui, naturellement, revint le précieux avantage de payer les pots cassés. Lahrier, un coup qu'ils se trouvèrent seuls, le traita si rudement de vieille rosse, en lui mettant le poing sous le nez, qu'il en demeura assommé, les yeux comme des noix et la bouche en jeu de tonneau.
Rendu à sa mauvaise humeur, le jeune homme se claustra en un farouche mutisme. Toute la journée, il fut inquiet, fiévreux, avec la hâte d'être au lendemain. D'une mollesse d'enfant, incapable d'une résolution, il avait adopté ce modus vivendi qui consiste à se laisser aller au petit bonheur de l'existence et à s'en remettre au bon Dieu du soin de trancher les questions dès l'instant qu'elles se présentent avec quelque nuance d'embarras. Vainement, l'ami Chavarax, qui lui vint emprunter une pincée de tabac, s'efforça-t-il de l'égayer. Il commença par n'en point tirer 20 paroles. Tout de même, lorsqu'il eut, fine mouche, flairé vaguement le dessous des cartes et ruminé entre ses dents « Il y a du Laomerie là-dessous !» Lahrier, stupéfait de tant de clairvoyance, dut confesser qu'il en était ainsi et raconter en substance son entrevue avec le chef. Chavarax, qui la connaissait en détail par Ovide, le garçon du bureau, auquel il allongeait 20 sous de temps à autre pour aller écouter aux portes et lui venir répéter ensuite les petits potins intimes de la maison, n'en triompha pas moins bruyamment.
« j'en étais sûr !»
Puis, « c'est pour ça ?» Il s'esclaffa.
« Vous avez de la bonté de reste, vous encore. C'est à cause de cet imbécile que vous faites du mauvais sang ?»
Eh, fit Lahrier, vous êtes charmant. Ma maîtresse me donne rendez-vous pour demain.
Eh ben, c'est bien simple. Allez-y.
Oui, mais si le chef me joue le tour de provoquer ma révocation,
il en est bien capable au fond. Il est très monté contre moi.
Lui ?
Chavarax pouffa de rire.
Est-ce que vous êtes fou ?
Depuis quand donc, s'il vous plaît, révoque-t-on des fonctionnaires de l'État parce qu'ils ont séché le bazar ?
Ce sera assez rigolo qu'on ne puisse plus tomber malade.
Pourtant.
« Laissez-moi donc tranquille. Les femmes sont susceptibles. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier. Et vous serez bien avancé. Le jour où vous aurez blessé votre maîtresse pour le plus grand plaisir de votre chef du bureau. » Ironique et paternelle. « Nigo, coucherez-vous avec lui quand vous ne coucherez plus avec elle ?»«
Non, » dit Lahrier.
« Eh bien, alors ?»
Ah là là, à votre place, c'est moi qui n'hésiterai pas.
Il n'hésitait jamais à la place des autres. C'était un très gentil garçon, duquel il se fallait méfier comme de la peste. Non qu'il fichât les gens dedans, grand Dieu, il les y déposait, voilà tout, délicatement et sans douleur, après les avoir pris entre le pouce et l'index. Et quand ils se trouvaient par terre, le derrière entre deux selles, il leur portait des condoléances. Sa perfidie délicieuse et pleine d'ingéniosité, empoisonnée sans laisser trace, présentait le sourire aux lèvres, ainsi qu'il eût fait d'une fleur. Il ne comptait d'ailleurs que des amitiés, tant il avait la grâce aimable, mêlée de cette pointe de brusquerie qui détermine la confiance. Il poursuivit.
Ce serait trop bête de se gêner avec l'administration, pour ce qu'il y a à attendre d'elle, quand je pense que je lui ai tout sacrifié. Une situation de 36 000 francs au cœur, et, tout dernièrement, un mariage fabuleux. Oui, mon cher, fabuleux, inouï, avec le million à la clé. J'ai refusé parce que cette alliance, conclue avec une des plus grandes familles de France, c'était un démenti donné à toute ma vie, un soufflet appliqué à mes convictions si ardemment républicaines. Voilà ce que j'ai fait, moi.
Et pour en arriver à quoi, je vous le demande? À piétiner sur place, dans l'attente du poste de sous-chef qui m'est promis depuis 2 ans.
Je sais, se va te le dire Lahrier, qui en était à sa 1000e audition des sacrifices de Chavarax.
Avide d'en éviter une nouvelle ressucée, il aiguilla adroitement, en revint à ses moutons. Son envie de lâcher la boîte le lendemain mitigeait de sa crainte des complications s'il donnait suite à son projet. Sa nature hésitante d'oiseau balançait. Il gagnait de l'énervement à peser le pour et le contre sans trouver l'énergie d'une détermination. Il finit par s'en prendre à la pile de dossiers élevée devant lui, en forteresse, si haute qu'elle lui masquait le bas de face du père Soupe, assis à l'autre extrémité de la table commune. La plume en l'air, l'œil assombri.
En voilà-t-il de l'arriéré ? En voilà-t-il de l'arriéré ?
La colère, brusquement, le conquis, et aux approbations bruyantes de Chavarax répétant
« Eh oui, et sans doute. »«
Zut, zut » cria-t-il, « il y en a trop. Je ne pourrai jamais en sortir. Je vais repasser tout ça à Saint-Homme. »
Fin du chapitre 2 du deuxième tableau. Deuxième tableau, chapitre 3 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir, par Georges Courteline. Deuxième tableau, chapitre 3.
L'expéditionnaire Saint-Homme du Bureau des Fondations était un maigre personnage de qui le maladif visage, éternellement en moiteur, avait l'humidité jaune claire des pommes de terre crues, fraîchement pelées. Entre les accros d'un veston encaustiqué ainsi qu'un meuble, sur les vastes glacis duquel on aurait aimé s'élancer, couvert d'épaisses fourrures et les pieds chaussés de patins, il dissimulait tant bien que mal l'attristante infamie de ses dessous, cette misère du linge qui, bon gré mal gré, tient à déclarer qu'elle est là, se révèle et s'affirme quand même en manchettes craquelées de gerçures, en faux col chevauché de ces cravates sans nom que seul semble avoir décidé à n'être point cordon de souliers une susceptibilité bête. Rue de l'Exposition, à Grenelle, grouillait autour de ce malheureux une ribambelle de mal fichu. Une fillette mi-aveugle, un crapaud de 5 ans, éclopé, qui consolidait de béquilles son rachitisme précoce, un dernier né encore au sein, dont le visage couleur de sein doux promettait, et une femme coiffée à la Vierge, qui était devenue aphone pour avoir disputé trop de pièces de dessous à l'âpreté des harengeurs. De quoi vivaient ces gens? Problème. De bouillon, arrachés les uns après les autres à d'inépuisables pot-au-feu, sans doute aussi de ces choux équivoques, dont les abominables relents empuantaient avec une obstination digne d'éloge le palier de leur 5e étage. N'importe. Au milieu de cette détresse, Saint-Homme, les rares moments où il n'était pas au bureau, baladait sa morne figure imperturbablement sereine, son importance de personnage chargé d'une mission officielle, et les rides multiples d'un front qu'avait ravagé à la longue le sourd travail des hantises opiniâtres. Car cette âme avait son secret, cette vie avait son mystère. L'ambition, depuis des années qui lui pesait comme des siècles, caressée par cet imbécile de se voir élevé un jour à la dignité d'officier d'académie. Et en son assoiffement d'honneur, exaspéré de déception, sous le coup du labeur incessant d'une idée fixe tournée à la monomanie, il en était venu à cette extrémité, considérer le genre humain comme une grande famille unie que seulement divisait le mixte terrain de ses palmes, d'où, pour lui, deux groupes bien distincts, le groupe ami, exclusivement préoccupé de les lui faire obtenir, le groupe adverse, tout au souci de discréditer ses mérites, et de compromettre ainsi ses chances à la distinction flatteuse qu'il convoitait. Des 30 employés de ses collègues, pas un, bien entendu, qui n'eût son petit classement côté cour ou côté jardin, mais surtout lui apparaissait considérable le portier de la direction. Oh, ce sous-ordre ! Saint homme n'en osait regarder qu'avec une respectueuse terreur le masque de sournois gorille, le petit crâne aux tempes dévastées, dont se dissimulait l'essaim d'obscures pensées sous la feinte bonhomie d'une casquette trop large. Oui, formidable, car douteux, tel se révélait à ses yeux ce concierge appelé Boudin. Disons tout. Un fréquent cauchemar, familier de ses nuits tourmentées, le lui montrait enveloppé jusqu'aux cils d'un manteau couleur de muraille, volant à de mystérieux rendez-vous où le venait bientôt retrouver le directeur des dons et legs. Des enfoncements de cul-de-sac déserts abritaient ces entrevues. Le maître et le valet s'y abordaient avec des airs de conspirateurs et, durant des heures entières, à la faveur des ombres de la nuit, ils s'entretenaient à voix basse de questions ayant trait à l'administration. Celui-là, recueillant des lèvres de celui-ci tous les renseignements de nature à éclairer sa religion sur le compte de ses employés. Leurs heures d'arrivée à la direction, leur hâte à en partir le soir, leur tenue dans la rue Vanneau, le nombre de camarades mâles et femelles qui leur venaient faire visite, la quantité de bouteilles de bière qu'ils se faisaient monter les jours de grande chaleur, etc., etc. Tant et si bien que, l'obsession de son rêve ayant petit à petit empiété jusque sur ses veilles, saint homme en était arrivé à fournir des 10 et 11 heures de présence, où les autres en fournissaient 4, et à rayer de ses papiers tout ce qui, de loin ou de près, pouvait ressembler à un congé. Plus de vacances réglementaires, de lundi de Pâques, de 1er de l'an, de 14 juillet ou de vendredi saint. Le petit boiteux fut venu à claquer qu'il l'eût fait mettre en terre à l'aube de façon à pouvoir encore être au travail avant tout le monde. Il venait au bureau le dimanche, et comme le concierge, ce jour-là, mettait à profit ses loisirs pour aller prendre le vermouth avec des cochers du quartier, il lui arrivait de l'attendre des heures sous le porche glacial de l'immeuble, payé de sa peine si à son retour, le pipelait le saluait d'un air flatteur. « Ah ! Quel bûcheur, ce monsieur Saint-Homme ! C'est donc comme ça que vous êtes tout le temps sur la brèche ?» Il lui donnait sa clé. « Voilà. Merci, Boudin, » disait Saint-Homme. Et, par le vide de l'escalier, il s'élançait à la conquête de ses palmes. Jusqu'au soir, seul en son bureau, il abattait de l'expédition, au milieu d'un silence si grand qu'il en avait par instant aux oreilles, le bourdonnement de gros coquillages, s'interrompant de temps en temps pour étirer sa lassitude et jeter un coup d'œil par la fenêtre ouverte à cet azur des dimanches parisiens qui évoque les longues promenades au bord de l'eau, les haltes sous les tonnelles, les paresses et les vagues sommeils sur les herbes rôties des fortifications. Cela avait amené ceci. Une exploitation en règle de ce délire vaniteux et, de la part du directeur qui l'entretenait jalousement mais se gardait bien d'y satisfaire, un homme persécuté de revendications criardes, éternellement tiraillé entre ses bonnes intentions et l'impossibilité de les réaliser faute de capitaux suffisants, et de la part des employés qui très bien se soulageaient sur lui du surcroît de leur besogne en lui disant « Faites donc ça !» avec des airs sous-entendus de messieurs qui ont le bras long. Lahrier, surtout, en jouait. C'était plaisir de voir ça. Cette fois, ce fut un délice. Chassant, d'une poussée de l'épaule, la porte de la pièce où travaillait Saint-Homme, la face en sueur, les coudes en travers de la table.
Hé, hey, saint homme, bonjour. Tiens, c'est vous?
Oui.
Et avec du neuf, mon cher. Il avait forgé une histoire admirable, un fourbi de secrètes accointances avec un mystérieux monsieur que sa discrétion naturelle lui interdisait de citer, mais qui, très haut placé dans la bonne grâce présidentielle, se met à son bon plaisir des mannes de ruban violet. En sorte que depuis 2 ans, il cultivait en les alimentant les convoitises de son collègue, ayant toujours à la disposition de cette brute des piles de dossiers amassés et des cliquetis argentins de palmes académiques. À la révélation qu'il y avait du neuf, saint homme se roidit contre une défaillance, mais, quelle que fût sa volonté à masquer pudiquement son trouble, un hoquet d'émotion coupa en 2 morceaux le « entrez donc » qu'il jetait à l'arrié. Celui-ci, dont on voyait juste la figure et le haut de l'épaule engagé dans l'entrebâillement de la porte, se faisait fort tirer l'oreille. Il jouait le monsieur débordé de besogne, qui repassera une autre fois, n'ayant pas le temps de flâner. Enfin, sur de nouvelles instances, il dit qu'il voulait bien rentrer une seconde. « Une seconde, mon vieux, pas plus, parce que, vous savez, j'ai affaire. Eh oui, eh oui. » Il entra donc, pliant sous le poids des dossiers qu'il maintenait de son bras sur sa hanche et dont il se hâta de caler, à la moleskine d'une chaise, la pile énorme et vacillante. Mais déjà, saint homme s'en était emparé, et pendant que l'autre, bon apôtre, mimait la stupéfaction, interrogeait l'air bête « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il l'allait enfouir sans mot dire, en les enfoncements d'un placard qu'ensuite il refermait à clé. Ne vous inquiétez pas.
Comment ?
Laissez donc, je vous dis, laissez donc. Vous pouvez bien me permettre de vous donner un coup de main.
Alors, l'arrié fut grandiose.
Hautement, il se récria. Il se plaignit que ce fût toujours la même histoire et déplora amèrement la sottise dont il témoignait en se laissant tout le temps pincer. Il finit par élever la voix et par exiger ses dossiers. Saint homme dut faire valoir des droits. Affectueux et ferme tout ensemble, il le sec « Permettez !» devant lequel on n'a plus qu'à baisser pavillon. En même temps, de ses doigts ouverts sur le geste avancé de l'arrié, il faisait taire les discrétions absurdes, opposait une digue infranchissable au flux des généreuses fougues. « Je sais ce que je vous dois, je le sais, et plus un mot, hein, il suffit. » « Que vous me contrariez, » fit l'arrié. « Sur quoi ? Sans transition.
« Ça marche, votre affaire. »«
Oui ?» questionna le pâle symptôme.
« Tout à fait, oh mais tout à fait. J'ai vu notre homme hier soir. Eh bien ? Eh bien, l'affaire est dans le sac. Il a longuement parlé de vous au président de la République, qui s'est montré fort attentif et aussi bien intentionné que possible à votre égard. Ce sera pour le 14 juillet.
Sûr ? Ou pour le 1er janvier ? Pour cette année, enfin, ou l'autre.
C'est imminent, en tout cas. Il parlait, et les yeux de saint homme flambaient verts, tels les yeux en bouchons de carafe de ces gigantesques poupées qu'anime Okil le ventriloque, cependant qu'à Grenelle, rue de l'Exposition.
Oh, quand on pense, criait la femme devant le vide sinistre du buffet, quand on pense que depuis 7 ans, on ne l'a pas augmenté d'un sou. 200 francs seulement, mon Dieu. Une augmentation de 200 francs, et ce serait le loyer payé.
Fin du chapitre 3 du deuxième tableau.